Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Allez, aujourd'hui, nouveau podcast, et c'est un podcast un petit peu particulier. J'ai pas l'habitude de faire des podcasts où on est aussi nombreux. Bon, on n'est pas non plus une centaine, mais on est quand même quatre aujourd'hui. Alors, il y a Xavier, Ambre, Vincent. C'est Xavier qui m'a contacté en me disant « Tiens, François, je souhaiterais mettre en avant mes assistants qui ont participé eux aussi finalement au Grand Raid du Finistère. » Et je souhaiterais les mettre en avant parce que c'est un sujet dont on parle trop peu souvent. Et tu as raison, Xavier. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà, Xavier, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Bah, tout d'abord, merci François de nous recevoir sur le podcast. C'est une belle opportunité, effectivement, de parler d'un sujet qui te tient à cœur également, mais à moi aussi. Donc moi, je m'appelle Xavier Rosali, j'ai 28 ans et ça fait... maintenant 2 ans que je pratique le trail et la course à pied, ça doit faire 3 ans. Donc j'ai augmenté les distances depuis le début. J'ai commencé sur du 20 km, ensuite je suis allé sur du 50 avec pas mal de trails bretons, la Pointe du Raz puis l'ultramarin en version trail 56 km. Et c'est cette année où j'ai augmenté pas si progressivement que ça les distances, où je me suis aligné sur l'Ultra Trail des Côtes d'Armor, le 90, la VVX à Volvic, le 110, et puis là où j'ai fait une tentative justement du Grand Raid du Finistère il y a pas si longtemps.
Et, ouais, parce qu'on enregistre le 28 septembre, hein, le Grand Raid c'était le 15, ouais. Des conditions pas faciles, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, 50% d'abandon à peu près. Ouais. Si on compte les relais, on arrive aux 50%. Pourquoi avoir choisi cette course qui est quand même très dure pour un premier 100 miles?
C'est intéressant en fait. Ambre parlera après plus tard, mais c'est ma conjointe et on habitait à Montréal depuis elle 10 ans, puis moi 7 ans, et on est revenu en France fin 2021. Et Ambre, c'est sa région natale, et moi je découvrais la région. Je suis vraiment tombé amoureux de la région, et c'est vrai que quand on arrive dans le milieu du trail et qu'on suit un petit peu les grosses têtes d'affiche, là il y a une surreprésentation parce que ça vient de là effectivement, mais de la montagne. Et moi je me suis pris une claque en découvrant une vraie terre de trail en Bretagne, notamment dans le Finistère, et je trouvais ça trop cool en fait qu'il y ait dans le Finistère le premier ultra trail, justement le Grand Raid du Finistère qui se mette en place, et c'était pas forcément dans mon calendrier. Bon, spoiler alerte, c'est sûrement une erreur, on le verra par la suite, mais et quand j'ai vu justement que t'en parlais sur ton podcast, j'ai vu arriver ça sur les réseaux, je me suis dit allez, ce serait trop cool d'y aller pour se tester, mais aussi que le premier ultra trail, parce que ce sera pas le dernier que je fasse, soit dans une région au sein de laquelle je suis tombé amoureux, quoi.
Très cool, très cool. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, hein, qui ont choisi le Grand Raid du Finistère comme premier 100 miles, pour cette raison-là en partie, parce que finalement c'est à la maison, quoi. Et ça simplifie quand même beaucoup de choses, notamment les sujets de congés, de déplacement, de logement. Enfin, voilà, ça simplifie pas mal de choses. Comment tu t'étais préparé, brièvement pour ce défi?
Après la VVX, donc qui a eu lieu dans le week-end de l'Assomption, donc en mai, j'ai pris une petite pause d'une semaine, 2 semaines, et ensuite, sachant que c'était plus roulant que la VVX où j'avais fait une grosse prépa dénivelée, même si c'est pas la course, c'est pas de la haute montagne, mais on va dire que il y a pas mal de montées, avec notamment cette terrible montée du Puy de Dôme, je me suis dit on va essayer de travailler le terrain roulant. donc aller travailler un peu de vitesse et d'endurance sur du plat, et également de la descente, vu que c'était mon gros point faible. Donc c'était des séances spécifiques la semaine, entrecoupées effectivement de jogging et d'endurance fondamentale, donc du spécifique sur piste ou du tempo et du fractionné sur terrain, chemin côtier mais plutôt roulant. En fait, je travaille à Plouzané, donc il y a une belle partie du GR là-bas. Et le week-end, plus de travail, donc de sorties longues, avec un focus mis sur la descente et la résistance en descente. Et le tout, ça a été d'augmenter progressivement le volume jusqu'à le point culminant. Donc, c'était deuxième semaine d'août où j'ai fait la reco. Je l'ai fait en trois étapes. Où j'ai fait la première étape, j'ai fait Telgruc jusque Lanvéoc de nuit pour me mettre justement dans le bain. Donc, sauf que il y a une grosse tempête qui a éclaté. Donc, j'ai été mis dans le bain. On va dire que c'était le scénario quasi copié-collé du jour J. Ensuite, j'ai fait Lanvéoc Camaré, puis Camaré retour sur Telgruc. Ça, c'était ma semaine avec le plus de volume. Et c'était cool d'avoir t'en parler justement, le fait de le faire à la maison. Donc il y a tout ce que t'as dit, il y a l'empreinte carbone qui était aussi important, mais il y a également le fait de pouvoir t'es pas obligé de te prendre deux semaines de congé pour aller faire une reco. En fait, tu y vas sur un week-end et c'est facile. Donc ouais, ça c'est comme ça que je me suis préparé. Puis ensuite, à la fin de cette semaine de gros volume en course à pied, toutes mes sorties longues, je les ai faites en vélo pour ménager les articulations. Et puis voilà.
Ah, c'est vraiment un gros, gros, gros plus quand même, et pour tous les locaux qui peuvent aller faire cette reco, parce que comme il n'y a pas de balisage, eh bien, ouais, ça facilite la progression le jour J. Et Aurélien, hein, le cuisinier qui a gagné, avait fait aussi cette reco totale du parcours, contrairement aux deux autres favoris qui n'avaient pas pu le faire. Et je suis convaincu que au moins l'un d'entre eux, qui nous écoutera, je le suis sûr, Florent, qui a fait une erreur de parcours, n'aurait peut-être pas arrêté s'il avait fait cette reco et qui s'était pas trompé de chemin. Donc effectivement, ça fait partie des avantages des locaux pour pouvoir aller faire cette reco. Il y a un autre aspect sur le Grand Raid du Finistère qui est particulier, c'est la gestion alimentaire, qui est un petit peu particulière. C'est parce qu'on a l'habitude de voir sur des ultras, ce qui nécessite une connaissance de soi qui est un petit peu plus poussée que quand on a un banquet devant soi. C'est la gestion de son alimentation. Est-ce que c'est quelque chose qui toi te convenait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait mais qui finalement t'a convenu? Comment est-ce que t'as abordé ça?
C'est vraiment intéressant. Je pense que en fait, moi, je les ai pas vécus, vu que c'était mon premier 100 miles, mais j'écoute assez de podcasts, je regarde assez de documentaires, je lis assez d'histoires pour savoir que maintenant, il y a des, sans citer les noms forcément parce qu'on les connaît, mais des grosses machines de l'ultra, où maintenant le terme aventure peut être un peu moins utilisé au profit du terme performance, parce que tous les 10 bornes, il y a un ravito avec, on dirait un banquet royal justement sur ce qu'on peut servir, couplé à une assistance. On va dire à moins d'une défaillance physique, si on se prépare bien sur son alimentation, il n'y a pas trop de problèmes, en tout cas en lien avec l'alimentation. Et moi, c'est vrai que je trouvais ça intéressant aussi comme défi, de pouvoir rajouter ce défi sur l'alimentation. Ça prend, comme tu dis, une bonne organisation, et en même temps on a quand même 4 points de ravitaillement solide. C'est pas si mal, on n'est pas en pure autonomie, donc c'était pas non plus la fin du monde. Et par contre, sur l'aspect connaissance de soi, on en parlera peut-être un peu plus, mais effectivement, moi, c'est ce qui m'a fait défaut, où je suis assez jeune dans la pratique, et j'étais dans un cycle où ça faisait 2 ans que j'en faisais, j'augmentais les distances, ça faisait mal physiquement, c'était dur, mais j'ai jamais eu de défaillance. Donc j'étais un peu bête sur cet aspect-là, où je me suis dit, tant que ça marche, j'y vais. Puis là, j'y suis allé avec une nutrition que j'avais pas testée avant, et ça mal payé, quoi.
La classique.
La classique. On passe tous par là, je pense.
Ah, bah oui, hein, on teste, hein. On teste, on apprend, que veux-tu.
Exactement.
Ambre, toi qui as vécu toute cette préparation et le quotidien de Xavier pendant tout l'avant et même le pendant, comment est-ce que tu as appréhendé aussi et comment est-ce que tu l'as accompagné, comment est-ce que tu as vécu toi dans l'ombre cette avant-aventure?
Bah déjà c'était très drôle parce que j'ai des images de Xavier qui teste ses sacs avec les gourdes et qui fait des tours dans l'appartement, donc c'était très drôle de voir ça les précédents jours. En fait, Xavier il a toujours été très sportif. Avant de faire du trail, il a fait plusieurs sports, donc moi je l'ai toujours vu évoluer dans ses différents sports, et c'est vrai que l'évolution dans le trail elle a été très rapide, on va dire. Donc moi au début j'avais plutôt une approche, en fait j'ai un gros esprit de contradiction, du coup je remettais constamment en question le sport, enfin dans chaque sport, c'est pas propre au trail en fait. Donc à chaque fois, comme Xavier est quelqu'un de passionné, bah voilà, j'essayais toujours de le remettre en question, de le pousser dans ses retranchements. On aime beaucoup débattre dans notre couple aussi, donc ça a toujours mené à des super discussions, des super débats sur ça. Et après, plus ça avançait, plus moi j'étais un soutien, et c'est vrai que j'en ai beaucoup appris aussi grâce à lui sur le sport. Donc j'ai toujours gardé ce recul, parce que forcément quand on aime quelqu'un, bah voilà, il y a les aspects de santé physique et mentale qui étaient importants, surtout qu'on est rentré en France après le Covid, donc c'était déjà des questions importantes pour nous. On est rentré pour se rapprocher de la famille, etc. Et du coup quand il m'a proposé après de participer, j'ai eu très très peur au début. Et il y a aussi le fait que il nous l'a proposé en duo avec Vincent, on est frères et sœurs. Donc le fait que nous on soit très proches et que tous les trois on soit aussi très très proches dans la vie, bah ça a tout de suite été rassurant. Et le fait que Xavier soit très organisé, en fait, il nous a pris par la main. Donc j'ai pas eu l'impression de faire grand chose et d'être guidé parfaitement en fait.
Parce que tu vois, quand on a une assistance, c'est tout ou rien en fait. Ça dépend aussi des assistants. Mmh. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise. Tu vois, je partageais un petit peu ma petite expérience. Au début, ma mère qui m'accompagne souvent sur les courses, quand j'ai commencé à augmenter les distances, sur un 50 bornes en plein milieu de la tempête, elle me dit mais qu'est-ce que tu fous, fais comme les autres, arrête mon garçon, je tiens à toi, il ne faut pas continuer à te mettre dans des états pareils. Alors que ma femme, à l'inverse, n'a absolument aucune empathie pour moi ce jour-là. Elle est plutôt du genre, tu m'as emmerdé pendant des mois avec ta course. Maintenant, tu vas aller jusqu'au bout et puis tu vas pas m'emmerder. Tu vas continuer et puis c'est tout. Vous êtes plutôt quel team, Ambre et Vincent?
Ben, moi, je pense personnellement avec Xavier, je suis plutôt une team un peu entre les deux, c'est-à-dire que je pense qu'on a une relation, lui et moi, très intéressante au niveau du sport, parce que moi-même, je pratique beaucoup régulièrement du sport, et donc on a régulièrement des discussions sur notre pratique mutuelle du sport qui fait qu'on se comprend assez bien, même si on pratique pas du tout la même chose. Et je pense que pour Xavier, déjà, dans un premier temps, c'était intéressant parce que lui, j'étais un peu la seule personne avec qui il pouvait parler de son sport et qui s'y intéressait vraiment. Donc déjà, ça faisait qu'on pouvait comprendre un peu les phases par lesquelles on passait, la mentalité qu'on devait avoir respectivement dans nos sports. Et donc, je pense que déjà, on avait construit en fait une relation sportif depuis longtemps avant cette course-là, ce qui a fait que la relation qu'on avait pendant la course, c'était une relation de confiance, c'est-à-dire qu'on se connaissait déjà bien, puisque Xavier me racontait souvent ses entraînements, les phases par lesquelles il passait, donc il y avait une relation de confiance, donc c'était plus, il n'y avait pas forcément un besoin de motivation extrême, en tout cas de ma part pour Xavier, mais plus une question de le rassurer et de le tempérer, donc c'était un peu force tranquille, notre relation sur la course en tout cas.
Ouais, c'est vrai que moi, je l'ai ressenti aussi. Enfin, Vincent et moi, on est frères et sœurs, on est très fusionnels, donc on n'avait pas besoin de beaucoup communiquer, enfin, même par la parole. Souvent, c'était par le regard. Et avec Xavier, nous, ça fait 9 ans qu'on est en couple bientôt. Donc, moi, je sais qu'on était beaucoup dans l'écoute, en fait, d'attendre, de voir ses réactions, de sentir ses émotions. Moi, je commence à le connaître et je vois très bien aussi s'il est dans le mal ou pas et si, de quoi ça peut relever, même si on s'y connaît pas dans le trail. Donc, c'est vrai qu'on a... Déjà, on voulait tout le temps lui remonter le moral. À chaque fois qu'on le voyait à un point, on faisait une blague, on faisait un truc complètement débile pour qu'il ait le sourire et qu'il reparte avec la banane. Et après, à chaque fois, d'être dans l'écoute de ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que à chaque ravitaillement, on préparait tout d'avance, on attendait et on interprétait ce que lui nous envoyait comme signe, en fait.
Xavier, toi, tu aurais imaginé le faire tout seul, sans Ambre et Vincent ?
En fait, c'est oui, parce que je l'ai toujours fait tout seul. Comme disait Vincent, avec Ambre, on discute beaucoup du sport, mais sur son aspect philosophique, on va dire, et sur des fois le côté extrémiste. C'est là où justement elle vient un petit peu tempérer mes ardeurs dessus, essayer de me mettre la tête dedans. Avec Vincent, c'est quasiment la seule personne dans mon entourage où on parle fondamentalement de la mécanique du sport, des choses comme ça. Mais on va dire que dans sa pratique, moi, je suis pas dans un club. Mes sorties longues, je les fais tout seul. Donc, les courses, c'est mettre un dossard, ça a toujours été en fait de le faire tout seul. Et en plus, je sors d'une expérience à la VVX où c'est mon père qui m'a suivi. Et mon père, qui est très sportif aussi, qui fait du cyclisme, a voulu me suivre en vélo. Sauf que c'était une des pires erreurs qu'on ait fait. On s'en est sorti, hein. Je l'ai fini, puis lui aussi, il est allé jusqu'au bout. Mais ne connaissant pas le milieu, justement, je lui ai fait un itinéraire, ne connaissant pas les chemins, etc. Il y a un moment, il passe sur les départementales, etc. Donc, on s'est perdu. Et tous les deux, en fait, on s'envoyait de la frustration. Ce qui fait que je ressortais d'une très mauvaise expérience en tant qu'assistance pure, pas en termes de fusion avec mon père. Ça nous a rapprochés. Et je me suis dit, je vais le faire, tout seul, en fait. Et ensuite, il y a le côté où depuis le début, j'ai pas les meilleurs résultats, mais on va dire que je suis dans le top un tiers au niveau de mes résultats. Et là, je me suis dit, je m'entraîne fort, j'ai du temps. On va essayer d'aller chercher quelque chose de sympa. Et on le sait de toute façon, c'est un sport qui commence à avoir encore plus de gens performants dessus. Et si on veut performer, il y a des choses qu'on peut contrôler. Et la chose qu'on peut contrôler, c'est la rapidité sur les ravitaillements, c'est de pas se tromper, d'avoir de la lucidité. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de redistribuer les cartes sur la vision de l'assistance et d'y aller. Donc c'était plus dans une notion de performance que de j'y vais pas sans assistance, tu vois.
Ouais, je comprends. En plus, t'étais longtemps dans le top 10, il me semble. Hein.
On était avec Mathieu puis un autre coureur justement. On qui a fini troisième, on courait à 3.
Et
voilà, exactement. Et puis franchement, on volait quoi. on volait. On savait qu'on était frais et tout, etc. Donc ouais, et d'avoir en fait une assistance, je l'ai vu tout de suite au premier ravitaillement à Argol. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, je m'attendais à fouiller dans mon sac comme j'ai toujours fait. Et là, j'arrive, la table est préparée, nickel. C'est là qu'on se rend compte que oui, on fait des grosses distances, mais quand on a une assistance, je reste persuadé que c'est pas la même course.
Et alors, tu vois, il y avait un coureur qui... On va soulever un petit débat, là. Tiens. Il y a un coureur qui soulevait le fait qu'il devrait y avoir un classement avec assistance et sans assistance. Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui. En fait, je pense que ça soulève des débats parce que comme dans tout sujet, même autre que le sport, dès qu'il y a une zone grise, une zone floue, ça crée du débat. Qui plus est, en plus, on est dans le milieu du trail, donc on a tous un peu des cerveaux... d'ingénieur entre guillemets où on doit tout mettre dans des cases etc. Donc effectivement c'est une zone floue, donc les gens se positionnent d'un extrême ou de l'autre. Moi je pense que si une course effectivement donne une zone floue, genre vous avez le droit à une assistance mais en même temps vous n'êtes pas obligé d'avoir une assistance, ça ferait du sens de faire un double classement. Par contre, après, il peut y avoir des courses qui se positionnent. Non, pas d'assistance. Dans ce cas-là, voilà. Ou alors, obligatoirement de venir avec une assistance. Bon, ce serait pas forcément pertinent parce que déjà que ce sport est assez élitiste d'un point de vue financier, si on le rend élitiste d'un point de vue disponibilité du temps de son entourage, ça devient compliqué. Donc, ouais, non, j'y verrais pas trop d'inconvénients. Je trouve ça intéressant même. Et puis, ça permettrait peut-être de réouvrir un autre débat qui est que on est en train de... Moi, je le connais depuis que 2 ans, donc je suis un genou là-dedans, mais on entend souvent des anciens et des anciennes parler de retour à l'esprit d'aventure du trail quand on prenait 4 barres de céréales dans son sac à dos puis qu'on se barrait pour 10 heures, 15 heures, 20 heures en montagne et que voilà, c'était advienne que pourra. Donc moi, je verrais pas trop d'inconvénients.
C'est vrai que c'est un sujet hein, pour les organisateurs aussi parce que tu vois je suis allé au tout premier point d'eau et puis ben quand tu vois la flotte de voitures qui suit les coureurs et c'est aussi quelque chose que tu dois gérer et qui est nouveau hein. Avant t'avais que les 3 premiers de devant qui avaient quelqu'un qui les suivait tout le long de la course. Maintenant chaque personne de la course a son assistance presque personnelle. C'est intéressant et ça fait rebattre un peu les cartes et ça ouvre d'autres perspectives. Ça fait moi je trouve que il y a un règlement qui laisse la possibilité à des gens d'avoir un assistant si tu veux vraiment en avoir un, tu t'organises pour. Si tu acceptes de t'inscrire sans assistant sachant que d'autres en ont un, bah, tu as accepté ce règlement, connaissance de cause. C'est comme si tu décidais de courir sur une jambe alors que tu as le droit de courir sur les deux. c'est le problème de chacun et d'avoir ces différents classements. À ce moment-là, on s'arrête où, on s'arrête quand, celui qui court avec un sac Salomon, celui qui court avec un sac Oka, celui qui... Enfin bref, on s'arrête pas. Bref, revenons à notre sujet. est-ce que t'as une petite avant qu'on continue sur les assistants, j'aime bien demander cette question. Est-ce que t'as une petite anecdote, quelque chose qui t'est arrivé pendant la course, un petit truc what the fuck auquel tu t'attendais pas
Oui, bah oui.
Ah, vous rigolez, ça veut dire qu'il y a quelque chose.
Il y en a.
Bah, Ambre avait donné un indice en disant qu'il souhaitait me faire rigoler justement, puis. En fait, on a un délire avec c'est là on rentre dans le domaine des inside jokes, donc ça va peut-être faire rire personne, mais voilà, nous ça nous fait rire. C'est qu'en fait on aime quand on, je sais pas, quand on va dans un bar où ils diffusent du foot ou des choses comme ça, on aime faire semblant de pas s'y connaître. Donc par exemple, tu vois, on a une discussion sur le foot, on dit ah ouais, j'adore Tony Parker ou des choses comme ça. Bref, tu vois un peu les portes que ça ouvre d'un point de vue incompréhension des autres et absurdité, mais voilà, c'est notre petit monde à nous. Et donc là justement, j'arrive en haut du Menez Home, les montées sont dures, surtout que les 2 coureurs avec moi impriment un rythme assez fort en montée. J'ai trouvé très très fort, très très solide. Donc je m'accroche à eux, mais c'est dur. Et j'arrive en haut du Menez Home. Il fait super beau. Il y avait pas encore le coucher de soleil, mais on s'en approchait. Et là, je vois les deux assistants, donc Ambre et Vincent, avec sur le téléphone marqué avec une faute d'orthographe sur le téléphone de Vincent. Allez le foot. Allez, et à crier, allez le foot, c'est bien, tu fais un bon match, tu sais, tu vois, quelque chose comme ça.
Et ça a fait rire le caméraman.
Et ça a fait rire, et bah voilà, là on peut dire qu'on a tout réussi, mais bah, juste ça, tu vois, en termes d'anecdotes, on analyse souvent l'assistance, je pense, vers sa capacité d'organisation. Moi par contre, là où j'ai trouvé vraiment l'importance de l'assistance, c'est sur sa capacité en fait à juste faire rire, et à un moment, tu viens de faire une grosse montée où t'as mal aux jambes, et juste de rigoler, bah ça te fait te concentrer sur autre chose dans le cerveau, donc j'étais mort de rire et j'y ai pensé dans toute la descente. Et le fait d'y penser toute la descente, bah j'ai littéralement volé dans la descente, j'avais pas mal aux jambes, pas mal aux quads, etc. Donc juste à penser aller le foot, aller les coups francs, bah ça m'a fait beaucoup rire, tu vois. Donc ouais, non, ça c'était un peu en filigrane de toute la course, donc c'était trop bien.
C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de penser à autre chose, de laisser partir son cerveau sur un autre sujet que ce qui est en train de se passer pour continuer à avancer, même dans les moments les plus durs. Ambre et Vincent, celui qui veut répond, quand il y a eu l'orage, Est-ce que vous avez eu un moment d'inquiétude et comment est-ce que vous avez géré ça? Et peut-être que le fait d'être à deux, ça vous a permis de mieux appréhender ce moment?
Bah, on était très inquiets. En fait, nous, depuis le début, donc Xavier était en fait dans le peloton, il était pendant très longtemps, il a été 6 ou 7e. Et du coup, on était très excités, en fait. On savait qu'il avait un bon niveau, qu'il avait monté très vite, mais de le voir avec des très bons devant lui, on était très excités jusqu'à ce moment-là, en fait. Et donc, l'orage nous a un petit peu cassé notre délire. Et nous, on était, quand il a commencé à pleuvoir, donc on était sur une toute petite route. Moi, je me souviens, j'étais au volant, on roulait quasiment à 5 à l'heure, tellement c'était compliqué. Et là, on a vu la grêle. Et là, on a pensé très fort à Xavier. Je lui ai envoyé un message. Bon, je pensais pas qu'il allait répondre, mais pour voir quand même si tout allait bien. Et on s'est dit, là, ça devient compliqué, surtout qu'il a commencé à pleuvoir très tôt dans la course, finalement. Très tôt. On était, en tout cas, il restait une bonne partie de la nuit à faire. Et c'est vrai que quand on est arrivé au point de rencontre, donc c'était la sortie de la forêt, et là on a vu la tête de Xavier, et c'est là qu'on s'est dit bah là il y a un souci, parce que il a rigolé à notre tentative de blague, mais moi j'ai bien vu le changement sur son visage, quoi.
C'est vrai que ça a été un moment de transition, hein, pour les coureurs, parce qu'il y en a certains qui ont arrêté clairement en voyant l'orage, parce que peur, en fait, tout simplement peur de l'orage. Il y en a qui se sont arrêtés et qui ont repris après. Il y en a qui ont subi toute la course parce que les pieds ont souffert. Bref, il y a eu, c'était vraiment un moment de transition, cet orage. Comment est-ce que vous étiez préparé en amont à gérer, parce que en ultra, comme on dit, hein, si tout va bien, t'inquiète, ça va pas durer. Pour les assistants, c'est un peu pareil. Est-ce que vous vous étiez préparé à gérer tous les imprévus et les moments difficiles que Xavier allait pouvoir traverser pendant la course? Et mis à part les petites blagues comme ça, est-ce qu'il y avait des choses que vous vous étiez préparé à faire ou dire en cas de coup dur?
Après, je pense que le plus difficile, surtout sur lequel on s'était préparé, c'était d'arriver à cerner Xavier. Parce que moi, par exemple, même au moment où il y a eu la grêle et la pluie, ce que je redoutais le plus, c'était qu'il cache des choses, ou du moins qu'il atténue certaines choses, certaines douleurs qu'il pouvait avoir. Donc, moi, en tout cas, personnellement, et on en a discuté aussi un peu avec Ham, c'était d'arriver à justement... cerner quand il atténuait des douleurs ou justement des blessures qu'il pouvait avoir. J'avais beaucoup peur d'une chute et qui justement ils nous le disent pas forcément, parce que son envie de continuer, elle est tellement forte que je sais que c'est le tempérament dans l'adrénaline des choses à pouvoir diminuer certaines douleurs qu'il pouvait avoir. Donc on s'était surtout préparé à analyser correctement ses gestes, son tempérament, ses émotions quand il arrivait sur le ravitaillement, pour comprendre tous les signes et essayer de cerner les choses qui pouvaient nous cacher, en fait.
Et puis ça fait partie du pack de départ, en fait. Avant de dire oui à quoi que ce soit, on s'est assis tous les trois et on s'est aussi promis de se dire les choses. Et Xavier nous a promis aussi d'être complètement transparent avec nous s'il y avait quoi que ce soit au niveau physique ou mental qu'il fallait nous le dire, que ça n'allait peut-être pas arrêter la course, mais que dans tous les cas il fallait communiquer parfaitement.
Ouais, c'est toujours ce côté un petit peu bipolaire, hein, du trailer, qui a pas envie d'inquiéter mais qui en même temps a besoin de soutien. Tu l'as vécu comment, ça, Xavier?
C'est vrai que, comme l'a dit Vincent, moi j'ai un tempérament, il y en a peut-être qui le diront pas comme ça, mais moi je préfère être autocritique là-dessus, un peu idiot, de pas s'écouter. Comme disait Ambre, j'ai fait des sports avant, notamment le sport que j'ai le plus pratiqué intensément avant le trail et la course à pied, c'est la boxe. Ça m'est arrivé tout simplement deux fois de me faire casser trois côtes et d'aller à l'entraînement le lundi. Parce que c'est un mélange. Hein.
Attends, t'as été t'entraîner avec des côtes cassées?
Oui. Parce que
je te veux dans mon équipe, toi.
Hein. Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on se dit au début, mais au final, c'est très bête parce que ça donne des séquelles physiques.
Ah ouais.
Et en plus, on veut juste se prouver des choses, mais il y a d'autres manières de se prouver des choses. Et donc, du coup, en fait, quand je suis tout seul, j'estime ne pas avoir une assez bonne analyse de moi-même et être très biaisé dans mon envie de me prouver des choses à moi-même et de performer. Et je pense, c'est très bipolaire en fait. D'un côté, je pense qu'on est les mieux placés pour prendre des décisions envers soi-même. Pour la décision, on est les mieux placés, mais pour l'analyse, moi, j'en suis pas encore à ce stade-là. Et le fait, en fait, d'aller sur une course avec des personnes qui vont pas être déçues par ta performance, parce que honnêtement, ils veulent juste mon bonheur et ils en ont rien à carrer que je le cours en 6 km/h de moyenne ou en 6.5. Mais par contre, qui veulent se dire, le week-end d'après, en fait, t'as pas de séquelles et on peut aller tranquillement aller boire des coups. Moi aussi, ça me donnait une responsabilité à être 100% transparent là-dessus. Et ça m'a enlevé un petit peu ce masque que je me mettais de serrer les dents, en fait, quand ça va pas. Sans tomber dans l'extrême inverse de trop s'écouter. Parce que on fait de l'ultra, on n'est pas là pour s'arrêter quand on a une petite égratignure. Le moment où ça a très mal allé, ce qui a amené à l'abandon, on a communiqué. Et tu vois, juste l'idée de l'abandon, en fait, je savais pertinemment que je pouvais pas continuer, mais c'était très clair. C'était très clair parce que je voulais pas imposer de l'inquiétude de leur côté, mais aussi de se dire, eux, de la culpabilité. Putain, on l'a laissé partir alors qu'il allait clairement pas bien, en fait. Et j'avais pas envie qu'ils se retrouvent dans une situation comme des fois on peut le retrouver à certains ravitaillements, et c'est le milieu du trail, où t'as le coureur ou la coureuse qui gueule sur son conjoint ou sa conjointe pour dire non, tu me laisses repartir, t'inquiète. Enfin, c'est des scènes qu'on veut pas voir, c'est des scènes qui existent. Et moi, j'avais pas envie de les mettre dans cette situation. On va pas. Enfin, à la base, c'est que du sport. On retourne tous et toutes au boulot le lundi, quoi. On va pas se mettre dans des étapes pas possibles et créer des problèmes de couple et de relations interfamiliales parce que je veux courir, parce que je me suis cassé le doigt de pied. Enfin, c'est quand on met tout ça en perspective avec le recul, c'est ridicule. Quand je suis tout seul, je suis dans ce côté ridicule. Quand je suis avec du monde, j'ai une responsabilité. Donc, c'était très bien pour mon propre bien.
Ouais, puis c'est vrai que les engueulades sur les assistances, ça se voit souvent. Le fameux problème de la poudre bleue au lieu de la poudre rouge.
C'est ça.
Je t'avais dit la poudre bleue, mais
ouais,
non, c'était la rouge.
T'as oublié les chaussures ou des choses comme ça, oui, mais c'est des choses qui arrivent.
Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce que t'avais prévu un petit roadbook pour faciliter la vie de tes assistants, et est-ce que t'aurais des conseils à donner à des futurs trailers ou ultra trailers qui iraient avec des assistants sur des courses prochainement, et il y a des choses que tu as fait et qui ont été grandement utiles?
Je pense oui, en fait la première fois que je leur ai demandé, je leur ai envoyé un document Word de 2 pages où j'avais écrit, ça sonne un peu intense comme ça, mais pour moi c'est déterminant. C'était un peu le contrat dans quoi on s'engage quand on fait en fait une assistance, s'ils veulent bien, ce que je leur demande, ce que je leur demanderais de pas faire, et pourquoi je leur demande à eux, en fait. C'est comme on écrivait un texte et je leur ai écrit pourquoi j'allais les chercher et ce que ça impliquait, pour qu'ils aient tous les tenants et les aboutissants pour dire oui, mais aussi pour dire non, parce que c'est une certaine responsabilité. En le lisant, ils m'ont répondu dans la journée, mais je sais aussi qu'ils ont pris le temps de le lire et de prendre conscience et avant de se lancer là-dedans. Et ensuite, il y a eu, on va profiter de cet espace pour te faire de la pub, François, pour cet événement. J'ai pas participé c'était mon premier ultra. Par contre, c'est la première fois que je vois une implication aussi forte de l'organisateur pour la compréhension des coureurs et coureuses et pour la vulgarisation aussi de l'ultra en lui-même. Enfin, t'as déconstruit, je pense, le côté ultra par de l'organisation, et tu nous as fourni un roadbook accompagnateur. Moi, que j'ai pris, ça a été 90% de la base de mon roadbook auquel j'ai apposé des temps de passage estimés, ainsi que de la nutrition avec laquelle je devais repartir des ravitaillements. Et si je les avais pas, Ambre et Vincent étaient en charge de contrôler justement ça. Si je les avais pas, on prenait le temps de vraiment de les mettre parce que sinon je repartais pas sans cette nutrition-là. Mais 90%, 95% du truc, c'est toi, ton roadbook accompagnateur indiquant les points de passage, les points d'eau, le déroulement de la journée, le règlement du ravitaillement solide, c'est que dans les bases de ravitaillement, etc. Bref, ça a beaucoup aidé.
Bah c'est vrai que je vais profiter, hein, j'appuie hein, tout ce que tu dis pour saluer tous les assistants qui m'ont remercié pour ce roadbook et à qui j'ai simplifié la vie. Bon, en fait, c'est simple, hein, c'est un roadbook que j'aurais aimé avoir sur d'autres trails que j'ai pu faire et que j'ai jamais eu. Donc, c'était normal pour moi de le faire.
On a senti la différence. Enfin, pour le coup, moi, j'étais la seule au volant tout le long, et juste d'avoir toutes les adresses à rentrer dans Maps, les coordonnées GPS avec une photo à côté, etc. Nous, ça nous a enlevé un poids énorme, en fait, de bah, juste ne pas perdre de temps à se perdre et à se demander si on va louper ou pas Xavier quand il passe, quoi.
Là, ça enlève un coup de stress, et puis ça a fait gagner aussi beaucoup de temps de préparation en amont, quoi. C'est clair. Bon, en tout cas, ravi que ce roadbook vous ait plu, et puis bah, c'est quelque chose qui sera reconduit et amélioré chaque année avec les expériences de chacun. Hein. Moi, je suis toujours preneur de comme toi, Xavier. Tu vois, on teste, on apprend. alors, tu l'as quand même dit plusieurs reprises et je pense que tout le monde a plus ou moins compris, mais malheureusement t'as pas été au bout de cette aventure. D'ailleurs, moi je l'appelle souvent aventure, hein, plus que ultra trail. J'aime bien dire que c'est une aventure plus qu'un ultra trail. Et est-ce que tu peux nous partager ce moment où dans ta tête il y a eu la bascule? Moi, j'appelle ça la bascule, tu vois, le moment où ça y est, tu t'es dit là, c'est trop, ou là, c'est pas possible, ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête?
Mais carrément, ben, en fait, il y a eu plusieurs points. C'est qu'effectivement, en fait, moi, je suis pas trop sujet, en fait, bon, après, c'était quand même intense sur le Grand Raid du Finistère, mais je suis pas trop sujet, en fait, les changements de température, je vais estimer être chanceux, ça m'atteint pas plus que ça. Et en plus, j'avais des tenues de rechange, etc. Donc, quand il y a eu la tempête, ça allait. Par contre, ça a beaucoup réduit la visibilité, même avec une lampe frontale. Donc, dans la forêt, entre le point d'eau de l'Andévennec et le premier point de rencontre à l'Anvéoc, je me souviens plus du nom de la forêt, mais en tout cas, c'est un sous-bois avec beaucoup de racines. Ouais, c'est ça. Exactement. Avec beaucoup de racines. C'est ça, exactement. Beaucoup de pierres. Et je commençais déjà à voir en fait le ventre gonflé, avec mal au foie, avec la nouvelle nutrition qui était principalement liquide que je testais. Et pareil, que j'ai testé à trop forte dose. Et mais je me disais, bon, j'ai déjà eu des petits problèmes digestifs, c'est pas ça qui va m'arrêter. Sauf qu'à un moment, dans une descente, une pierre que je vois pas, et je me prends le pied dedans et je fais une chute. La chute en elle-même, ça va. Par contre, vu que j'ai lâché les freins un petit peu dans la descente, bah, j'ai senti quelque chose au niveau de l'orteil. Donc, il est pas cassé. Par contre, ce que ça a fait, je mets un petit trigger warning pour ceux qui écoutent et qui sont un peu sensibles, mais ça a cassé l'ongle et l'ongle est rentré à moitié dans ma chair. Là, à ce moment-là, je me dis, putain, ça fait mal, hein. Là, ça va être dur. Mais je suis tout seul, encore une fois. Il n'y a pas les visages de ceux qui tiennent à moi devant moi. Donc, je me dis, bah, on va serrer les dents, hein. C'est comme ça. Puis, voilà, c'est l'ultra. Et bah, pendant tout le long, en fait, ça ne va pas. Je les croise à la sortie du sous-bois, à l'école navale de l'Anvéoc. Et là, comme a dit Ambre, elle a très bien perçu que ça allait moins bien. Donc là, s'ensuit une grosse montée sur la route. Pour après, on a, je pense, un max 6-7 bornes jusqu'au ravito. Et là, c'est 6-7 bornes là, mais je me fais lâcher par les deux coureurs avec qui je courais, mais complètement. Mais ça, c'était pas grave, c'est secondaire, on fait sa propre course. Mais je sens que je suis plus du tout dans le coup, je marche dans du faux plat montant, ce qui est normal en fait, mais quand on arrive peut-être dans la deuxième moitié de la course, là, je marche, ça va pas, puis je sens mon ventre gonfler. Et j'arrive au ravitaillement, tout de suite, je dis ça va pas. Et d'ailleurs, je les remercie parce que ça devait être un ascenseur émotionnel pour eux. L'an des Vénèques, on se voit au point d'eau, on rigole et on a les jambes fraîches et on part à l'attaque. Entre 10 et 15 kilomètres plus tard, c'est plus du tout la même limonade. Donc chapeau à eux pour ça et je m'assois. Et en fait, je sens mon ventre gonfler et je sens quelque chose qui, en fait, a pu m'arriver déjà par le passé, mais hors du sport, c'est tout simplement les symptômes d'une intoxication alimentaire. Avec, je commence à sentir mon cœur qui bat fort dans ma tête. J'ai du mal à tenir debout et c'est pas des crampes, c'est pas un manque de prépa physique, c'est tout simplement le foie qui se met en alerte. Là, je pense déjà abandonner parce que je connais ces sensations et je me dis, on repart à nouveau dans la nuit et à partir de l'envers, on va sur du chemin côtier là où c'est escarpé ou voilà, si je commence à tituber et que je tombe dans le vide, c'est marrant de vouloir se prouver des choses, mais ça sert à rien. Donc je commence déjà à penser à abandonner. J'enlève mon dossard, je prends ma balise. Et là j'y vais, puis il y a un assistant qui vient me voir puis qui me dit, ah, c'est sans trop savoir mes symptômes, mais je le remercie, ça repartait d'une bonne intention quand même, de me dire bah là, enfin je veux dire, t'as 6 heures d'avance sur la barrière horaire, va pioncer un coup puis ça va aller mieux quoi. Je savais déjà que ça allait plus, mais je dis allez, je vais quand même tester, mais je préviens quand même Ambre et Vincent que on risque de plier bagages quand même. Donc je vais sur les lits de camp qui étaient mis à disposition. Je dors 2 heures, je me lève, mais ben là c'est pas, enfin, je devais pas prendre l'addition mentalement. Vincent me soutient, j'arrive plus à marcher, je vois flou et en fait je me mets à vomir partout en fait. Et là bah j'avais besoin d'un, t'avais beau repousser le moment, généralement une intoxication alimentaire, tu dors, ça va mieux après. Mais là, je sens que j'avais besoin quand même d'une coupure dans un lit normal, en fait, parce que j'allais pas m'en remettre et me mettre en danger. Donc, on va dire que mon corps a choisi un peu pour moi. Mais le fait de, pour être honnête, le moment où je suis arrivé au ravitaillement, j'y pensais déjà fortement, en fait. Je voyais pas dans la balance qu'est-ce qui valait le coup d'avancer, parce que il y a l'édition. On y retourne l'année prochaine, donc voilà. Il y a juste à prendre son mal en patience et faire une meilleure prépa. Donc ouais, la balance était très dans le très centré sur le côté abandonné quand je suis arrivé au ravito de l'Envéoc.
Et vous, du coup, Xavier, j'ai les prénoms devant moi, excusez-moi. C'est bizarre d'avoir 3 prénoms.
Ouais, je m'étonne.
Vincent et Ambre, comment est-ce que vous avez vécu ces 2 heures de sommeil de Xavier?
Bah nous on a discuté pas mal quand Xavier est allé se reposer, c'était même un peu moins de 2 heures, hein. il y a même pas eu 2 heures, mais on a discuté avec un autre garçon qui lui avait déjà fait, qui court beaucoup en fait, qui avait fait plusieurs grandes courses, et en fait en parlant nutrition, lui nous a parlé de problèmes gastriques qu'il avait eu en mettant un petit peu moins en fait de poudre dans la boisson, je sais plus quelle boisson c'était, mais en tout cas celle dans laquelle on devait mettre la nutrition. Et en fait comme le fait que Xavier n'ait pas testé avant et le fait qu'on en ait mis 2 cups en fait par gourde, lui nous expliquait que il fallait en mettre une, enfin qu'en tout cas c'est ça qu'il avait détecté. Et c'est vrai qu'en discutant, on savait très bien en fait, la première fois que Xavier nous a dit j'abandonne, ça a été très rapide, et nous on était encore dans une posture d'écoute, on attendait de voir en fait ce qu'il nous disait, et on savait bien en fait quand il est allé se reposer, on était quasiment sûr en fait, ça pouvait être qui tout double. Là pour le coup, l'ascenseur émotionnel, c'est vrai qu'on l'a vécu nous de plein fouet, parce qu'on vit un peu la course en décalé, mais on la vit quand même, mais on est lucide, donc on a un certain recul que Xavier n'a pas. Et c'est vrai que bah, quand il est arrivé, juste avant, on avait rigolé, voilà, on était très contents. Et quand on a vu, parce que moi, j'ai vu d'abord les 2 coureurs qui couraient avec lui, qui sont arrivés beaucoup plus tôt. Donc là, je me suis un peu inquiétée, parce que c'est vrai qu'il suivait pas du tout derrière. Et après, quand il s'est réveillé de sa sieste, bah, en fait, il était transparent. On l'a soutenu physiquement. Donc, voilà, il y avait plus grand-chose à rajouter. On savait, quoi.
Ça a été un coup dur, ou finalement, vous êtes passé vite à autre chose et vous n'avez pas ruminé, je parle dans les jours qui ont suivi.
Moi, je vais y aller. Après, je vais laisser parler parce que aussi, l'ont vécu d'une certaine façon. Moi, le soir même, ça apparaissait comme une évidence d'abandonner. C'est pas grave. On rentre. Je suis bien entouré. Je vais pas bien, mais ils vont pouvoir prendre soin de moi. Donc, en fait, il y avait un instinct. Ça se trouve, il y a des gens qui arrivent à passer au-dessus de ce que je suis passé. Donc, mais là, je parle pour moi. Il y avait un instinct de fallait se mettre en sécurité parce que et je me sentais en sécurité. Donc, on va dire que l'instinct primaire était rempli. Donc, non, il y avait pas de. On n'était pas dans. Il n'y avait pas la place pour l'analyse de sa performance, de regrets, des choses comme ça. Le lendemain, ça a été très dur parce que, pour être honnête, le matin, je me suis levé, j'ai pas dormi beaucoup. Et là, est-ce que c'était plein d'émotions, en fait, mélangées, des regrets, des choses comme ça. Parce que j'ai fait l'erreur, je pense. Il y a une très belle communication sur le Grand Raid du Finissaire de ta part, des autres coureurs. Il y a un groupe WhatsApp sur lequel on parle entre coureurs qui est une idée incroyable et qui devrait être reproduite sur plein d'autres trails. Et ben, je suis allé tout de suite voir, quoi. Comme quelqu'un qui, je sais pas, comme toi, par exemple, quand tu postes une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça, peut-être que t'as ce syndrome-là d'aller voir les commentaires. Ben, moi, c'était la même chose sur la communication. Et je voyais les coureurs que je talonnais ou les coureurs avec qui je suis parti avancer malgré tout, avoir le visage tiré mais avancer, et là, je me suis dit putain j'aurais dû être là quoi. Et ensuite encore une fois quand c'est lié aux autres personnes qui t'entourent, ils sont descendus, on a pris la voiture, on est allé à Brest chercher la copine de Vincent justement, et là on a passé l'après-midi juste à boire des bières et à faire autre chose. Et en fait, c'est là où tu te dis, en fait, je suis pas pro, je le serai quasiment jamais. Ma vie, c'est pas le trail, c'est juste un très bel à côté. La vraie vie, c'est ça, en fait. Là, on fermait la parenthèse. Là, on s'ouvrait à la vraie vie, qui est de boire une bonne bière avec les copains, puis voilà, ensuite aller au boulot. Donc, on va dire que ils m'ont aidé à fermer la parenthèse, parce que quand on est tout seul dans son truc, la parenthèse, elle prend une place assez énorme. Donc, la matinée était dure, mais après, on est passé à autre chose.
Et au moment où t'as arrêté, est-ce que t'as cherché le... des fois on fait ça, j'ai vu des coureurs faire ça, un peu aller chercher la validation extérieure que ce choix-là est le bon, que ce soit avec des bénévoles. Là, il y avait en plus les médecins, un médecin qui était là, il y avait Alain Véoc, il y avait des podologues qui étaient là aussi, donc ils auraient pu te dire non, avec ton ongle qui est rentré dans ta peau, faut surtout pas continuer, sauf si tu veux t'en séparer de ce doigt de pied. Tu vois, est-ce que t'as été chercher la validation extérieure de quelqu'un qui aide aussi à relativiser?
Ouais, non, en fait, pour être honnête, non, et je regrette pas, parce que j'ai besoin de la validation et l'approbation que de Ambre et Vincent. J'ai pas besoin de la validation d'autres coureurs, parce que je vais aller chercher leur validation peut-être sur des performances sportives. Je vais aller chercher la validation de médecins si jamais on parle d'une ampoule ou voilà, des choses peut-être sur lesquelles j'ai un doute que je peux continuer la course. Mais là, pour être honnête, j'étais comme un enfant, en fait, un peu perdu, puis j'avais mal, et je voyais pas bien, je marchais plus droit. D'aller voir la validation que c'est la bonne chose d'un coureur, lui, il m'aurait aidé, mais il était pas dans mes baskets, et il l'aurait analysé de son prisme à lui, avec son expérience à lui. Les bénévoles, j'avais pas envie de les embêter avec des questions philosophiques sur est-ce que je fais bien de continuer, comment mon ego va y survivre, parce que vous étiez, si je me souviens bien, vous étiez pas plus de 70 bénévoles, c'est ça? Ouais, voilà, donc il y avait quand même pas mal de choses à faire pour tout l'événement. Il y a la fatigue, il était 1h du matin, mais c'est pas parce qu'il y a juste 8 heures de course qu'il y en a qui sont pas déjà fatigués, parce que tu, en les faisant entraîner pendant plus de 30 heures sur l'événement, tu casses aussi leur rythme du quotidien. Donc j'avais pas envie de les embêter, et non, moi la validation c'était uniquement Ambre et Vincent. C'est ça, est-ce que vous êtes, mine de rien, comme un enfant, est-ce que vous êtes fier de moi malgré tout, en fait? Et ouais, il n'y a jamais été question d'autre chose, donc non, j'ai cherché aucune validation.
Mais de notre côté, enfin pour compléter ça, de notre côté, quand Xavier dormait, c'est vrai qu'avec Vincent, on a senti que voilà, ceux qui venaient nous parler, après, on ne savait pas qu'il y avait des lits, donc heureusement qu'ils sont venus nous le dire, ça a été quand même important pour tout tenter, mais on a senti des gens qui essayaient, après, voilà, qui étaient plus forts que nous, plus techniques dans le sport, mais on s'est dit, là, faisons-nous confiance, restons dans notre bulle, parce qu'en fait, s'il est question de sécurité et de santé, on peut pas se laisser, entre guillemets, influencer. On savait très bien que peu importe ce qui allait se passer, si Xavier nous disait non en sortant du lit, on n'allait pas rechigner et on allait rentrer, quoi.
Mmh. Non, c'est toujours cette question-là, hein, de savoir jusqu'où tu pousses, en fait. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est juste de te relever après un coup dur et un coup de moins bien, et ça, en ultra, ça arrive tout le temps, ou est-ce que tu es en train de te mettre en danger? Et c'est là la subtilité qui est parfois pas facile à déceler, et même les athlètes élites, hein, qui ne passent pas à côté, hein. On voit en ce moment Benyad Marmisol qui est vainqueur de la Diagonale des Fous et d'autres très grandes courses, qui en ce moment a une rhabdomyolyse en ce moment, et c'est voilà, c'est pourtant un athlète élite, donc voilà, c'est quand même un sport qui, c'est, on va pas dire que c'est un sport à risque, mais faut pas non plus faire n'importe quoi, et des fois faut savoir dire stop et revenir plus fort avec une alimentation connue.
Et puis nous, on était fiers, parce que Xavier, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a, franchement, même les médecins lui disent que sa tolérance à la douleur est quand même assez impressionnante, ce qui peut représenter un risque quand on fait des sports où on pousse son corps dans ces extrêmes-là. Et nous, on était fiers aussi qu'il nous dise de lui-même, là, c'est bon, j'arrête, parce que c'est le genre à se pousser outre mesure, quoi.
Mmh. Moi, je veux bien te croire, hein, quelqu'un qui va faire de la boxe avec des côtes cassées.
Et qui n'est jamais allé voir le médecin, hein, les côtes, oui, sont, oui, restées comme ça.
Ça, c'est le problème. Je pense que, je ne sais pas si toi, tu es comme ça, François, mais le problème de l'autodiagnostic et se convaincre que tout va bien, bah, moi, c'est poussé à l'extrême. Et c'est rigolo, enfin, c'est rigolo. Ça fait des belles anecdotes quand t'as 20 ans, mais si on veut continuer dans le sport et courir à 50, 60 ans, c'est pas avec des anecdotes comme ça qu'on va courir en bonne santé. Donc.
Ah non, moi je déteste avoir mal. je déteste avoir mal, et c'est pour ça que je ne serais incapable de faire de la boxe, notamment, parce que quelqu'un qui me tape, moi je vais tout de suite en dehors du ring, hein, y a pas moyen. Hein, c'est... Puis j'aurais trop peur en plus de faire mal à quelqu'un d'autre, tu vois, de lui casser le nez, je m'en voudrais, tu vois.
C'est vrai, je comprends.
Mais bon, c'est, quand je dis ça, c'est vrai que en faisant de l'ultra et en disant j'aime pas avoir mal, je sais pas si c'est très compatible, mais bon. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier, Vincent et Ambre? Moi, tu vois, j'ai une conviction, c'est que même si on, par exemple, tous les gens qui font du caritatif, quelque part, ils font ça aussi pour eux, personnellement, pour se sentir bien. Qu'est-ce que vous en êtes ressorti comme effet positif en vous d'avoir assisté Xavier durant cette aventure?
Ben, déjà, personnellement, dans un premier temps, la première fierté, c'était qu'il m'appelle. C'est-à-dire qu'il me demande ça. C'est-à-dire que c'était déjà une fierté, surtout quand je connais l'importance qu'il place dans le sport, dans le trail, dans sa vie. S'il me demandait de l'accompagner, ça veut dire qu'il avait confiance en moi. Donc ça, c'était déjà une première fierté personnelle. Et en plus, surtout de le faire avec ma sœur, je trouvais que ça avait du sens et que, je veux dire, ça, c'était révélateur de notre... relation qu'on avait tous les trois, et je trouvais ça assez beau et assez fort de pouvoir le marquer avec cette course. Et surtout, ça m'intéressait de comprendre et de rentrer en fait dans l'intimité de sa course. Donc ça c'était vraiment une grande fierté qui me, en fait, j'avais l'impression qu'il m'ouvrait un jardin personnel et intime qu'il avait gardé que pour lui jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on en parlait quand on se voyait, mais finalement il ne permettait pas qu'on puisse rentrer dans sa course, et surtout qu'on puisse le voir affaibli, le voir dans la douleur, le voir dans le mal, littéralement. Le fait qu'il s'ouvre comme ça, je trouvais ça, j'étais très fier, et surtout très fier de lui qu'il puisse faire ce pas-là, en fait, c'est-à-dire se montrer sous ses plus mauvais jours avec une course comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il savait très bien que il allait montrer un peu toutes ses natures au cours de cette course, et qu'il n'avait pas peur de nous les montrer. Et au contraire, j'avais une grande fierté à le voir à le voir aussi mature, en fait, à être capable de montrer ses défauts, ses faiblesses dans une course comme ça, se livrer aussi, aussi sincèrement, quoi.
Ouais, bah, moi, je rejoins beaucoup Vincent sur ça. Je trouve, comme je disais tout à l'heure, que Xavier a fait un gros travail sur se montrer vulnérable, mine de rien. À un moment après la course, il nous a dit une phrase qui m'a marquée. Il a dit « je me suis sentie en sécurité avec vous ». Et pour moi, à partir de cette phrase-là, notre mission, elle était remplie. S'il s'était senti en sécurité, d'être vulnérable comme d'être fort, enfin de passer par toutes ces étapes-là, je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait. Et moi aussi, j'étais très fière qu'il me demande ça et qu'il ait effectivement cette confiance. Et c'est vrai que moi, je l'ai toujours suivi dans tous les sports qu'il a fait. Et le trail, jusqu'à présent, bah voilà, je voyais toute la préparation à la maison, on en discutait, mais c'était beaucoup dans les mots surtout, en fait, et dans l'avant. Et là, le fait de vivre la course avec lui, ça a été une superbe opportunité. Et puis tous les trois, c'est vrai que ça nous a énormément rapprochés. Et tu parlais du mot aventure tout à l'heure. Nous, on l'a vraiment vécu comme une aventure. On avait vraiment l'impression d'une chasse au trésor. Xavier, c'était notre trésor, donc on le poursuivait partout. Et notre trésor qui nous échappait, quoi. Donc on était super heureux de ça. Et ouais, moi, ma plus grande fierté, c'est qu'il se soit senti en sécurité avec nous et qu'on ait quelque part rempli la mission. Parce que, bon, après, dans un couple, c'est vrai que moi, j'ai senti une pression sans que Xavier me la fasse ressentir. Mais forcément, quand ton conjoint te demande ça, tu te dis, est-ce que je vais être à la hauteur, en fait, tout simplement. Donc, le fait qu'il nous l'ait confirmé, c'est ça qui était beau.
Oui, et puis, je trouve qu'il y avait aussi une capacité qu'il a démontrée dans sa course, c'est qu'avec un tel entraînement qu'il a subi donc, dans sa préparation, pour l'avoir vécu un peu de loin et pour qu'il me le raconte, être capable, au final, d'abandonner avec autant de sacrifices, je pense que c'était une des choses les plus difficiles. Et en fait, c'est le meilleur échec, je pense, qu'il a vécu jusqu'à présent, parce que c'est l'échec qui va le plus apprendre. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais autant préparé pour une course, puisque il n'avait jamais eu autant d'ambition pour une course. Et je veux dire, ses efforts ont été un peu coupés nets. Donc, la frustration qu'il a pu ressentir, le sentiment d'échec, justement, dont on parlait, qu'il a pu ressentir, c'est un peu la meilleure chose qui a pu lui arriver pour pouvoir progresser, je pense. Et que, justement, moi, j'étais très fier de voir comment il a pris ça, en fait. C'est-à-dire avec recul, avec maturité, et que le lendemain, il rigolait, et que, en fait, il était déjà passé à autre chose, et il pensait déjà à la course de l'année prochaine, à ses prochains objectifs, à sa nouvelle préparation qu'il allait mettre en place. Donc, je trouve que cette qualité-là, elle a été possible uniquement grâce à cet échec de la course.
Il y a une chose qu'on remarque souvent chez les personnes qui ont déjà abandonné, c'est peut-être une capacité à réabandonner plus facilement les fois d'après, parce que en fait tu te rends compte que la terre continue de tourner la première fois que t'as abandonné et finalement ça se passe bien après. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse, ou est-ce que tu as déjà pensé à ça, Xavier ?
C'est vraiment intéressant. Je me suis posé la question justement parce que je sais que quand tu regardes des coureurs et des coureuses d'élite, bah obligatoirement ils s'alignent sur un moment de course, mais ils ont un bon taux de DNF. Est-ce que ça fait d'eux des gens moins forts mentalement ? Je pense pas. Bon, après il y a le biais d'être élite et il y en a beaucoup qui ils courent et quand ils voient qu'ils ont un coup de main bien, qu'ils pourraient potentiellement finir, mais qu'ils ne trusteraient pas le podium, bah, ils préfèrent arrêter. Ça, c'est un autre sujet. Mais non, moi, ça ne me fait pas peur parce que ça sonne, cet abandon, surtout la fin d'un cycle, pour dire grossièrement, de faire n'importe quoi, en fait. Dans le sens où j'ai commencé à courir sur le GR34 dans le coin de Logona d'Aoulas en novembre ou décembre 2021. Je me retrouve sur un 100 miles 2 ans après, un peu moins de 2 ans après, en étant certes bien préparé physiquement, parce que je peux encaisser des charges, par contre sans avoir testé de la nutrition, première erreur, en ayant quand même si ça ne s'est pas trop manifesté, mais en ayant beaucoup sollicité mes articulations, en ayant une stratégie pour aller fort sur une course, mais pas forcément pour perdurer sur le sport. Donc en fait, c'est la fin d'un cycle où on se croit intouchable. Et donc moi, je le vois plutôt comme ça. Là, je vais commencer un cycle. peut-être que j'aurai encore plus conscience de mon corps. Par contre, ouais, ça me fait pas du tout peur, l'abandon. Moi, je pense que je vais, ça va me permettre d'accepter de moins regarder sur Strava que les gens m'ont mis 40 km, 50 km de plus de volume dans la tronche pendant leur prépa, d'accepter que moi, en fait, j'écoute plus mon corps et qu'à ce moment-là, bah, je vais plus aller faire de la piscine ou des choses comme ça parce que faut que je ménage mes articulations, etc. C'est faire les choses intelligemment, se détacher du regard des autres et du regard qu'on porte aux autres. Et l'abandon, si ça doit se refaire, ça se refera, mais ça me fait pas tant peur. Au final, si on fait les choses intelligemment, évidemment qu'on aura des abandons, parce que si on fait les choses intelligemment, on courra des courses jusqu'à qu'on ait 60 ans.
Et que je trouve ça tellement stylé d'être le plus vieux sur une course.
Bah carrément. Ouais. Franchement, c'est des trucs.
Bon défi, ça.
Bah au final, c'est ça qui est important, parce que comme je disais, je vais pas devenir pro. J'ai pas ambition de l'être et pas les capacités de l'être. Je vais au boulot le lundi matin. Si c'est pour me flinguer le corps, parce que je crois que j'étais fier de, en fait, ma montée en flèche, et qu'au final, à 35 ans, bah, je peux juste, j'en sais rien, juste faire de l'aquagym ou des choses comme ça, parce que je me suis flingué tout le corps. Bah, je pense pas que je serais très fier à ce moment-là, en fait. Donc voilà.
C'est bien l'aquagym, quand même.
C'est bien la paix. Oui, c'est vrai. Putain, je voulais pas paraître mes 10 ans, pas du tout.
Ma femme en fait.
Fais chier. Tu vois, là, je viens de faire une énorme connerie.
Depuis septembre, en plus, elle a commencé ce mois-ci. T'as pas de chance.
Merde. Putain, la connerie. Toutes mes excuses.
Alors, c'est pas de l'aquagym, c'est de l'aquatraining.
Ah, bah voilà, c'est ça. Moi, l'aquatraining, pour moi, c'est le sport, c'est le meilleur sport, tu vois. C'est ça. Sport penseur. Donc non, c'est ça. Mais voilà, moi je sais que tant mieux si je cumule les abandons au fil des années, parce que ça veut dire que j'ai couru jusqu'à 60 ans.
Avant de revenir sur le GRF l'année prochaine, bien évidemment,
oui.
Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble? Vous en avez déjà commencé à en parler ou pas encore?
Ben oui, bah, de toute façon le GRF, on y retourne sous le... Bah ouais, c'est ensemble sous la bannière du projet 106, qui était mon numéro de dossard. Et c'est pour ça que j'ai utilisé sur un post LinkedIn et Insta le did not finish, qui est le mot anglais, parce que le terme abandonné, c'est Homme qui me l'a fait remarquer, mais peut-être un peu trop fort. Alors que did not finish, j'ai juste pas terminé, et on vient terminer ce qu'on a entrepris l'année prochaine, avec l'ambition de faire une belle perf. Mais avant ça, on va en discuter. Moi, j'aime aussi avoir des expériences tout seul. Tu vois, l'assistance, c'est important pour performer. Mais par exemple, j'ai 3 objectifs dans l'année 2024 qui vont être le Bretagne Ultra Trail en fin avril. Je vais m'aligner sur le 100 km, le raid de l'ultramarin. Et après, il y a le GRF. Et tu vois, quand c'est des 100 km, bah, peut-être que je vais le faire tout seul, parce que c'est aussi mon expérience à moi. Donc, le GRF, c'est sûr ensemble. Et après aussi, il faut prendre en considération que ils ont besoin de, enfin, il faut qu'ils soient disponibles mentalement, en termes de temps, mais aussi émotionnellement. Et c'est déjà une grosse, grosse chance de les avoir sur un événement. Je vais peut-être pas leur demander de venir sur tous les événements. Mais en tout cas, le GRF, c'est clair et net.
Bon, eh ben, plaisir de vous revoir l'année prochaine, alors, sur l'édition 2 du GRF. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que vous auriez aimé ajouter à notre échange, peut-être pour le clôturer? On va commencer, allez, dans l'ordre de ce que j'ai comme affichage sur mon écran. Vincent.
ben, moi, je trouve que... Pour clôturer, je trouve que ça m'a vraiment intéressé, en fait, l'assistance sur la proximité de vivre une course comme celle-ci, sur, en fait, comprendre cet univers, tout simplement. C'est-à-dire que c'est quand même très intriguant de vivre une course d'aussi près, donc de la comprendre finalement assez bien, mais sans forcément l'effort physique qui va avec. C'est-à-dire que moi, par exemple, à titre personnel, je fais un sport qui est totalement différent. Je fais du street workout, donc c'est un sport qui ne demande pas du tout les mêmes particularités. Mais le fait d'avoir été aussi près de cette course, ça donne clairement envie, en fait, de s'intéresser à ce sport et de s'y mettre. Donc, on en a déjà discuté avec Xavier. C'est des choses avec lesquelles on aimerait bien partager pour l'avenir. Donc, ouais, je trouve que ce rôle d'assistance, il donne forcément envie. Et en fait, on est si près d'un univers qu'on ne connaît pas du tout que ça nous laisse forcément un peu ébahis par ça, quoi.
Donc Vincent aura un dossard un jour sur le GRFC.
on est jamais si près.
Peut-être pas autant, mais non, c'est vrai que c'est inspirant, ça donne envie en tout cas.
À toi, Xavier.
Je voulais profiter aussi de l'espace que tu donnes pour te remercier, en fait, d'avoir ouvert ce podcast à Ambre et Vincent, parce que c'est vrai que c'est grâce à eux, et notamment dans mes discussions avec Ambre, que j'évite l'entre-soi du trail et de l'ultra-trail, en fait, où on n'écoute que du contenu de gens qui performent, on ne parle que de performance, que de sa sortie, on ne partage que avec le prisme de la performance. Et en fait, moi, j'étais trop content et c'est ça qui m'a aidé à abandonner, c'est ça qui m'a aidé à passer dans toutes les parties de la course, c'était de ramener des gens qui s'en foutaient, entre guillemets, de la performance. Bien sûr que ça aurait été les premiers à me prendre dans les bras si j'avais terminé, que j'avais fait une bonne place. Mais c'était la sécurité, mon bien-être avant tout. Et c'était trop cool. Et de pouvoir le retranscrire en podcast où la majorité des gens qui sont invités sur des podcasts sont des gens qui performent. Je sais que toi, tu mixes et tu vas chercher aussi des expériences diverses et variées. Mais dans tous les cas, c'est cool parce que on en rigolait avec Ambre hier, mais première assistance, bah, premier podcast. c'est marrant quand même. Et quand tout trailer rêve de donner un petit bout de son aventure en audio ou en vidéo. Donc ouais, non, bravo à toi. Puis ouais, moi, je pense que dans le futur, si je dois faire de l'assistance, ce sera qu'avec des profils comme Ambre et Vincent, donc qu'avec Ambre et Vincent.
Alors moi j'aime bien donner la parole à absolument tout le monde et surtout quand on me sollicite et qu'on a une belle histoire à raconter, je dis toujours oui. Et j'aime aussi donner la parole aux gens qui ne font pas partie du top 1% de l'élite. J'aime aussi écouter leurs histoires au top 1% et c'est pour ça que je recevrai Aurélien le cuisinier dans le podcast avec grand plaisir pour connaître aussi son histoire, mais j'aime beaucoup donner la parole à tout le monde et merci de l'avoir souligné, Xavier. Je t'écoute, Ambre.
Moi j'ai à peu près tout dit, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir vivre une course comme ça, parce que moi j'aurai pas de dossard l'année prochaine, ça c'est sûr. Moi je préfère la marche et la randonnée, mais
en 2030 alors, ça c'est bien.
Oui, voilà. Mais non, moi j'aimais bien, c'est vrai, pour revenir sur l'histoire de l'abandon, et c'est vrai que le terme anglais do not finish, ça me parle beaucoup plus aussi. Quand j'ai vu ce terme là justement, on en a beaucoup discuté avec Xavier, mais c'est vrai que en fait, pour moi, Xavier, c'est pas quelqu'un qui abandonne. Au contraire, justement, s'il en est arrivé jusque-là, c'est que c'est pas du tout quelqu'un qui abandonne dans la vie. Et j'ai très très hâte de le revoir à cette course l'année prochaine, et avec toutes ces évolutions, tous ces apprentissages. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu ces erreurs-là, en fait, il aurait peut-être appris beaucoup moins vite. Et du coup, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine.
C'est hyper intéressant ce côté du langage et des mots qu'on utilise entre notre culture et peut-être la culture anglo-saxonne. Et c'est vrai, j'avais jamais percuté ça, le fait de vous l'entendre dire, entre la différence entre abandonner et DNF. J'avais jamais percuté à ça, mais c'est vrai que je préfère aussi le DNF pour le sens qu'il a, avec le côté cette fois-ci j'ai pas fini mais je reviendrai. C'est un peu ce qui se dit derrière le DNF, alors que le côté abandon, il y a peut-être comme s'il y avait quelque chose de définitif derrière.
Ouais.
Et que si tu ne reviendras jamais, c'est fini pour toi.
Mais c'est exactement ça, puis c'est pour ça, ouais, que moi j'ai dans ce processus là de l'abandon, j'ai aussi suivi ta vidéo où justement tu avais un projet off dans le Jura, et t'as beaucoup communiqué dessus, et pour moi c'est important de communiquer sur l'abandon, parce que il y aura toujours des gens pour dire que voilà, tu peux avoir l'abandon facile, plus t'en parles, plus tu le fais, etc. Mais je pense que ça permet de dédramatiser aussi le truc, parce que tu vas abandonner, Sauf que quand t'es pas dans un milieu du trail, t'es pas dans un club comme moi je le suis, où je cours tout seul et le moment où j'en parle c'est avec Vincent ou avec Ambre, mais c'est pas des connaisseurs, bah l'abandon il paraît très très loin et surtout il fait peur. Et donc du coup de pouvoir voir du contenu que toi tu proposes, de pouvoir en discuter, mais également de pouvoir en parler, c'est super important. Et ça veut pas dire qu'en fait on le refera forcément comme un automatisme, sinon il y aurait plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses en France.
Bah, on va faire un groupe de discussion parce que si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit je redoutais ce moment et ça y est, il est arrivé sur le Grand Raid du Finistère cette année.
C'est clair.
On va créer une cellule psychologique le lendemain du GRF l'année prochaine.
Un groupe WhatsApp, ça serait bien.
DNF GRF.
C'est ça.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. C'est pas un exercice facile, mais pour un premier, je trouve que vous en êtes très 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 bien sortis. C'était un moment très agréable et différent encore une fois de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc moi, ça me plaît beaucoup. J'espère, chers auditeurs, que vous avez passé aussi un très bon moment. Et puis suivez Xavier Rosalie l'année prochaine sur le GRF, peut-être avec le dossard 106. On verra. Si je connais l'organisateur, je lui en toucherai un mot. Merci encore une fois, et puis au plaisir. Salut.
Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.